Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et pour commencer, pour répondre à différentes questions, je vais vous donner quelques nouvelles, récits de voyage. Nous étions récemment avec Eussel, Ourienne et Brigitte aux États-Unis pour différentes raisons. Nous étions d'abord chez Lama Nöla Rinpoché, que vous connaissez un certain nombre d'entre vous. Il était ici lors du Kagyüm Lam. C'était en 2012, il y a 2 ans. Nöla Rinpoché qui est là des plus anciens disciples et héritiers spirituels de Kalu Dorje Chan, qui a fondé de nombreux centres de retraite, Nusum Chusum, et qui est depuis 35 ans, plus ou moins, dans un lieu qui se nomme Wappingers Fall, c'est dans la vallée de l'Hudson. L'Hudson étant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie américaine, le grand fleuve qui va du Canada jusqu'à New York. Manhattan est dans le détroit de l'Hudson. Et Nöla Rinpoché, là-bas, a construit une importante communauté monastique, beaucoup de moniales particulièrement, et il construit présentement un important monastère. Mais notre visite chez lui était pour répondre à une invitation qui avait plusieurs volets. Elle faisait suite aux rencontres que nous avions eues en France avec Lama Tenpa Rinpoché, sachant que Lama Tenpa Rinpoché et Lama Nöla Rinpoché sont les deux co-présidents du Conseil des aînés de la lignée, qui est un cercle d'anciens, d'aînés, qui a donc cette fonction non hiérarchique, mais de guidance, de conseil, de facilitation et d'animation, de coopération au sein de la lignée Champa Kagyü. Et depuis des années, se constitue dans la suite de ce qu'a initié Kalu Dorje Chan en 1987, une association de lamas pour ainsi prendre soin de la transmission de la tradition et faciliter en son sein les échanges et aussi l'ouvrir, faciliter sa communication. Donc, cette association s'est développée dans ce qui a pris le nom de Champa Network, de Champa Resource Center. Et l'ensemble, maintenant, s'est regroupé dans ce qui a pris le nom de Champa Foundation, une fondation Champa. La tradition, Champakadieu, et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces histoires un petit peu tibétaines, est l'une des 8 grandes traditions de pratique du Tibet. Elles sont ces 8 lignées ici représentées sur les fresques de la Maison de la Sagesse. La lignée Champa étant celle dont nous sommes un héritier particulièrement et qui est justement au-dessus, là, derrière le Bouddha, devant l'autel. Donc, nous avons pu échanger et poser les bases et développer des perspectives dans cette direction. Nous en parlerons plus précisément avec Mapudso Colombe qui s'occupe de cela ici. C'est quelque chose de très important parce que cela donne à la tradition et à la transmission une cohérence, un facteur d'intégration et aussi lui donne une homogénéité, une visibilité qui sont très importantes pour la continuation, la pérennité, la diffusion et d'une façon simple, son rayonnement au service de tous les vivants. Donc c'est une source de réjouissance que le développement de cette Champa Foundation. En son sein, se développe un Teacher Council, un conseil d'enseignants qui a pour fonction de réunir des lamas donc qui ont déjà accompli la traditionnelle retraite Losum Chosum et qui ont une base et des fondements dans la pratique, d'accompagner ces lamas en leur offrant à la fois des compléments de formation post-graduate, après le fait d'avoir acquis cette qualité de doubla, de lama dans la pratique, et aussi de veiller à ce que ces personnes, ces lamas, puissent en bodhisattva, en vaillant, mettre les qualités qu'ils ont développées dans la retraite de 3 ans au service de tous les vivants, au service de nos concitoyens, quel qu'il soit. Ce qui est à la fois un service et une action de bodhisattva, et pour ces lamas, aussi une façon de trouver une inscription sociale qui soit valorisante eu égard à la compétence qu'ils ont acquise. C'est une façon d'inscrire la dimension spirituelle dans l'environnement social et sociétal contemporain. Donc, ce Teacher Council, qui s'est déjà bien développé aux États-Unis et que nous nous proposons de développer plus avant globalement. Nous avons discuté de différents projets de coopération autour du Champa Resource Center. Nous c'était très intéressant, très positif, une source d'inspiration. Je ne vais pas développer présentement pour des raisons de contingence dans le temps. Nous avons à cette occasion aussi fait un rituel de longue vie et d'hommage à Nola Rinpoche, qui est avec Tempa Rinpoche, doyen de la lignée. Ils ont tous les deux le même âge. Et, il y a dans la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire dans la transmission tout court, de génération à génération, de maître à disciple, et disciple devenant maître, de maître à disciple, de génération à génération, l'importance d'une appréciation et d'un respect des anciens. Je le dis d'autant que notre société moderne pourrait facilement avoir tendance à ne pas toujours être dans ce sens de l'appréciation. Lorsque l'on est dans une dynamique qui est celle d'une voie de spirituelle ou d'une voie de réalisation, pour autant qu'on y soit véritablement, l'on grandit en âge et en sagesse. Ce qui donne l'idée que les anciens ont souvent, voire généralement, plus d'expérience. Et dans cette mesure, pour autant qu'ils aient bien pratiqué, plus de sagesse. Donc, c'est ainsi que nous avons honoré notre doyen, qui a exprimé de nombreux encouragements par rapport à Ushampa Network et ses activités. Donc, c'est très bien. Et nous nous en réjouissons. Ensuite, nous avons fait à Wappingers Fall, qui est ici, c'est Karma Tetsum Chulin, c'est comme ça que cela se nomme, une retraite de mindfulness pendant 8 jours avec tous les lamas qui est ici, ou en tout cas la plupart d'entre eux. Et beaucoup des personnes qui sont les plus proches du centre, ça s'est très bien passé, ça a été une source d'inspiration. Donc, cela a posé les graines de la mindfulness et de futures retraites de transmission de mindfulness en Amérique du Nord. Les différents lamas présents et d'autres aussi m'ont invité à leur Teacher Council et ils ont rejoint sur les encouragements de la Rinpoche, le Champa Network, donc, qui grandit donc d'autant de participants actifs, en tout cas que nous espérons tels. Et nous avons là rencontré c'est Lama Karma, que certains connaissent mais pas tous, qui était et qui est très motivé par justement des projets de coopération et de service dans le Teacher Council, dans la lignée et dans une perspective de mindfulness, il fait lui-même je crois que c'est un MA ou UCLA, University of California, Los Angeles, qui offre, je ne suis pas sûr si c'est un BA ou un MA, mais peu importe, qui offre des diplômes en Mindfulness Facilitators, donc des facilitateurs ou des accompagnants, accompagnateurs en pleine conscience, pleine présence, mindfulness. C'est-à-dire que c'est une discipline qui aujourd'hui existe dans beaucoup de grandes universités américaines. C'est intéressant de voir comment la pratique de la méditation est en train de devenir mainstream dans le courant culturel, sociétal dominant en Amérique du Nord, est en train de devenir ou est devenu, je pense qu'on peut dire aujourd'hui même, franchement, est devenu beaucoup plus qu'en Europe et qu'en France. Et nous sommes ensuite ainsi tous ensemble allés au Mind and Life Institute à Boston, qui accueillait le International Symposium of Contemplative Sciences, donc un symposium international de sciences contemplatives. Le Mind and Life Institute a été fondé par deux personnes en particulier, qui sont Francesco Varela et le Dalai Lama. C'était, ou on pourrait dire le Dalai Lama et Francesco Varela. Mais Francesco Varela a été un catalyseur. Il était, il est décédé il y a quelques années, un chercheur d'origine chilienne qui était venu en France attiré par l'école de phénoménologie française, Merleau-Ponty et d'autres. Et un brillant chercheur qui a développé la... le domaine de la neurophénoménologie. Neurophénoménologie signifiant, bon, la phénoménologie, c'est les phénomènes, ou pour faire simple, les expériences, la science de l'expérience, de comment est ce que l'on expérimente, et neuro en rapport avec les neurones ou le cerveau, c'est-à-dire comment... l'expérience s'inscrit dans le corps. Et un livre majeur de Francesco Varela se nomme Embodied Mind, donc l'esprit incorporé, et qui a été traduit en français comme l'inscription corporelle de l'esprit. Mais donc, cette neurophénoménologie qui a donné naissance à différents aspects de recherche qui se sont développés dans Mind and Life, l'esprit, l'expérience vécue. Ça fait 25 ans, cela s'est énormément développé. Le symposium où nous étions cette année regroupait pas moins de 1500 personnes, plus de 1500 personnes, qui étaient tous des enseignants, des chercheurs, les différents endroits du monde entier. Et nous avions été, il y a cela, une trentaine d'années, proche de Francesco Varela, qui avait fait partie du GRD, qui se réunissait ici en Avallon, le GRD étant le groupe de recherche du Dharma, le groupe de recherche dans le Dharma, qui regroupait des scientifiques, chercheurs, qui avaient pour dénominateur commun d'être des pratiquants du Dharma et d'avoir une compétence scientifique dans un domaine particulier et de partager aussi un intérêt, une curiosité dans un échange interdisciplinaire. Et ce groupe de recherche dans le Dharma, qui d'une certaine façon fut un proto-Mind and Life, s'est arrêté pour des raisons contingentes ici en 1990. Mais j'étais très content de voir combien de 90 à 2014, ça fait 25 ans plus tard, les développements qu'il y a eu, qui sont extraordinaires, immenses, et qui, je pense, vont avoir une action et une influence extrêmement importante sur la transmission du Dharma en Occident. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la barrière, frontière qui existe entre discipline spirituelle et discipline scientifique s'estompe. Alors, nous sommes en France et nous connaissons la séparation de l'Église et de l'État, qui est une bonne chose, mais la pratique spirituelle, la pratique de la méditation n'est pas une pratique d'église, ni même une pratique religieuse. Et l'étude de l'expérience de ce que nous sommes et de ce que nous vivons d'une façon scientifique, ce qui est précisément le domaine de ce qui a pris ce nom un petit peu barbare de neurophysiologie ou de neurophénoménologie, plus précisément, c'est exactement le cœur du Dharma comme science de l'esprit, comme science de la connaissance. L'Abhidharma, qui est l'un des trois corpus des enseignements, se traduit comme phénoménologie, et aujourd'hui cette phénoménologie du Dharma est étudié dans des rapports entre science et contemplatif, dans un souhait d'échange et de participation, ce qui est très intéressant. Ceux qui sont intéressés, vous pourrez voir beaucoup de... Il y a un certain nombre d'articles. Il y en a eu un qui fut publié. Alors, je ne parle pas des articles qui existent en français. C'était l'Express qui a fait la une il y a quelque temps sur la méditation avec Mathieu Ricard. Le Time Magazine International a fait la une sur... Mindful Revolution, ça c'était en février, et là, juste à notre départ, nous avons eu un numéro de American Scientist, au Scientific America, je ne sais plus exactement, qui faisait aussi la une sur la neuroscience et méditation. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'il y a une forme d'objectivation de l'expérience cognitive, ou dit dans un autre sens, l'intégration de l'observateur comme paradigme de l'expérience, c'est-à-dire une certaine dissolution de l'objectivité de la science. La science, l'approche scientifique se présentant comme étant objective, sans que le sujet ne soit partie prenante de l'expérimentation, et ce qui est assez illusoire, et ce qu'il est complètement pour l'expérience humaine, l'expérience de la conscience. Donc, il y a beaucoup d'expériences et d'expérimentations qui ont été faites, qui ont montré les bienfaits de la pratique de la méditation à plein de niveaux. Alors, c'est une bonne nouvelle, ça fait du bien pour le corps, pour la psychologie, pour l'esprit, pour la société, pour l'économie et pour l'écologie. Ça pourrait sembler trop beau pour être vrai, mais c'est bien établi et c'est validé scientifiquement. Alors, c'était intéressant. Et aussi, une dimension de recherche qui me semble importante, et la possibilité de relier des feedbacks naturels avec des neurofeedbacks. Le feedback, c'est un effet retour. Si une boucle qui vous fait percevoir, par exemple, un état intérieur d'agitation ou de calme. Et il y a eu de nombreuses recherches qui ont fait même ce qu'on appelle du mind mapping. Ça s'est beaucoup développé ces 10 dernières années, une cartographie cérébrale qui met en évidence l'activation de certaines zones cérébrales. Je vous passerai les détails parce que c'est très compliqué et je suis loin d'être un expert en la matière. Mais en relation avec différents états cognitifs ou des différents états. Et en particulier, par exemple, la compassion. Lorsque l'on est dans un état d'empathie et même de compassion, un état compassionnel, cela active certaines zones cérébrales.
Ça marche dans les deux sens.
Et alors, je ne sais pas quels sont les deux sens, mais ce qui signifie que si l'on a un feedback, cela peut être une forme d'accompagnement à un entraînement pour découvrir un état, découvrir aussi bien un état compassionnel ou s'entraîner à le mesurer. Des méditants expérimentés, et ça a soufflé les expérimentateurs, ayant jusqu'à 700 fois plus qu'un échantillon témoin non expérimenté 700 fois plus de stimulation de la zone concernée. C'est absolument énorme. Et ce qui montre qu'il y a une approche qui est de l'entraînement, training, l'entraînement, alors ce que l'on appelle, nous, communément, la pratique de la méditation, qui prend du temps, qui est l'entraînement d'une vie, mais qui est un entraînement, qui a des résultats, et des résultats qui sont quantifiables, mesurables, objectivement. Et de là, on peut aussi anticiper la possibilité d'avoir... Certaines personnes développent un brain TV. Alors, vous pouvez, vous pourrez, enfin c'est en cours de... on peut avoir un feedback, une image sur un écran de son état cognitif, de son état alors cognitif à partir de mesures neurophysiologiques non cérébrales. Ce qui peut être une façon de trouver un état contemplatif et qui peut aussi être le moyen d'avoir une forme de rappel, aussi bien lorsque l'on y est que lorsque l'on n'est plus en cet état. Il y a très longtemps, il y a de ça ouf, peut-être 25 ans, j'avais testé un petit appareil qui était fondé sur les ondes alpha. Donc juste un petit casque. Et si on restait en état de contemplation, décroché, sans suivre ses pensées, zéro signal. Et si on se mettait à gamberger, à penser à ceci, à cela, à droite, à gauche, on faisait bip, 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 on arrêtait. Silence. Et j'avais trouvé ça à la fois amusant et intéressant. Mais c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, il y a des perspectives beaucoup plus, je pense, fines et intéressantes qui sont possibles. Donc bref, c'est pour vous dire que ce symposium a été une source d'inspiration et il y avait beaucoup d'anciens amis qui sont des enseignants importants et reconnus. En Europe, c'est beaucoup moins développé, mais il y a néanmoins un institut qui a fait énormément de travaux très intéressants, qui est le Max Planck Institute, l'Institut Max Planck, qui est un institut allemand. J'encourage, et on en reparlera, on verra comment peut-être envisager des possibilités de coopération. Donc voilà, ceci, je vais être bref parce que ça pourrait être développé très longuement, a été la visite au symposium du Mind and Life, et on y a pris aussi des contacts intéressants et importants. Et j'espère que ce sera une source pour le développement de la pratique de la mindfulness et pour le développement des pratiques de compassion, comme l'entraînement de l'esprit, l'ujjayi, qui sont le cœur du Mahayana, qui sont des pratiques non confessionnelles, qui ne dépendent pas d'une croyance, et qui peuvent de ce fait être abordées d'une façon chaleureuse, scientifique et d'une façon qui ne soit pas connecté dans une terminologie religieuse ou traditionnelle, religieuse certes, et même traditionnelle, culturelle, quelle qu'elle soit. Mais une chose est très importante, et peut-être de terminer là-dessus, et l'importance de l'enracinement pour l'ouverture. Ce que je suis en train de vous dire ici est la source d'une ouverture immense, où propose une ouverture immense. Mais dans le domaine que celui de l'expérience, l'ouverture, même illimitée, est possible lorsqu'il y a un enracinement dans l'expérience profonde. Autrement, on peut divaguer de façon plus ou moins pertinente. Et il y a aujourd'hui, et c'est un danger réel, beaucoup de divagations. Et divagation pourrait être un euphémisme. Donc, l'ouverture dans ce domaine est une excellente chose, pour autant qu'il y ait un enracinement dans l'expérience profonde. Et dans une tradition de connaissance, dans une tradition d'expérience, ce que je dis là présentement est le modèle aussi d'une approche rimée, qui sait être complètement ouverte, sans parti pris, mais qui en même temps insiste sur l'importance d'une connexion dans une tradition de pratique en laquelle l'expérience profonde peut être découverte, testée, validée. Donc c'est ainsi que nous pensons continuer avec l'enracinement et l'ouverture, ce qui est le paradigme du projet qui se dessine actuellement et qui se nomme Home. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être que nous en parlerons prochainement, je l'espère. Home, qui, comme chacun le sait, a le sens de la maison, le foyer. Home, sweet home. Home, c'est la terre, comme Yann Arthus-Bertrand fit le film, le très beau film que vous avez peut-être vu sur Home. Et dans notre cas, Home est aussi l'acronyme de ce que ce projet d'éducation, de transmission se propose de véhiculer. Un acronyme pour donc H-O-M-E, Harmony, Openness ou Ouverture, ça marche en français ou en anglais. Mindfulness ou méditation et Empathie, Empathie, Home, Harmonie, Ouverture, Méditation, Empathique, Empathie, Empathie, Compassion. Ou Harmony, Openness, Mindfulness, Empathy. Et ce sera l'occasion de développer cela lors de l'université d'été 2015 dans le projet dans la présentation d'une éducation humaniste intégrale, contemplative et transformative. Contemplative et transformative étant deux notions qui viennent transatlantique, mais contemplative, c'est-à-dire mindfulness et aussi compassion, et transformative dans le sens de la transformation de la société, de l'environnement. C'est en se transformant soi-même que l'on peut transformer l'environnement, action sur soi, action sur le monde, soit le changement que tu voudrais voir advenir. Petite dédicace, et nous allons continuer avec la pratique et le Dhyana Puja de Sukhasiddhi. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des remarques sur tout ce que je vous ai raconté ? Non, il y avait plein de Français, enfin plein, quelques Français. Parmi les plus connus, il y avait Antoine Lutz. Antoine Lutz, qui est un des principaux disciples et héritiers de Francesco Varela, qui travaille à Lyon, au CERN et je ne sais pas, aussi ailleurs. Il y avait aussi une dame, Claire Petit-Mangin, qui est de l'École normale supérieure, des archives UCERN, et qui est aussi, je ne sais plus, aux mines et à la communication, tout à fait, qui a fait une présentation très intéressante. UCERN était un grand phénomène. UCERN, comment ? Un grand phénoménologue. Donc, l'école normale supérieure, c'est plutôt littéraire, a priori. Mais sa présentation était à cheval sur les deux, et c'est elle qui a justement, qui travaille dans le développement de ce qu'elle a appelé Brain TV. C'est aussi tout à fait scientifique, en tout cas, la frontière entre les deux est. Bien.